sur le sol, là où il lui semble que le soleil peut encore les sécher, les vêtements, les outils, les sachets de bouffe déshydratés, le réchaud. Elle frotte, élastique et étend les choses les unes à côté des autres. Heureusement, il n'y a pas de vent. Pas besoin de poser des cailloux pour empêcher les vêtements et les papiers, les tissus de s'envoler. C'est déjà ça. Mais il la regarde, ma pauvre mère. Son air obstiné, buté, ses joues rouges, brûlées, griffées. Elle est folle de rage, ou de honte, ou désespérée, peu importe. Les paupières gonflées par des larmes qui ne tombent pas, mais les transforment en gigantesques poches brumeuses. Mais la violence de ses gestes, sa maladresse, sa rapidité, elle veut tout faire. Elle n'ose pas un regard sur Samuel. Elle sait ce qu'elle y verrait. Ce regard fixe qu'il a sur elle. Boum, boum, boum. La musique qui tape. La voix de Kurt Cobain et l'œil de Samuel sur sa mère. Il la regarde. Il comprend bien pourquoi son père avait décidé de la quitter. Il se souvient, à Paris, un jour où il était allé déjeuner avec lui dans un restaurant de la rue Dante. Son père lui avait parlé « entre hommes ». Oui, ce mot que Samuel avait trouvé exagéré, mais qui au fond de lui l'avait flatté, et disposé à entendre son père avec une attention elle aussi exagérée et soutenue. Son père qui lui avait parlé de toutes les fragilités de sa mère. Oui, il avait fini par la quitter. Oui, ça voulait dire aussi quitter son fils. Alors, entre hommes, il pouvait le reconnaître. C'est vrai, pour rien au monde, Benoît n'aurait quitté sa famille. Mais un homme, tu ne le sais peut-être pas encore, ça a de grands besoins sexuels. Et puis, avec mon travail, et puis, ce n'est pas drôle de rentrer chez soi tous les soirs avec une femme qui t'attend toujours en peignoir et avec sa clope qui fume dans le cendrier. Si tu crois que je n'ai pas fait ce que je pouvais, je l'ai trompé, oui, plusieurs fois. Si je ne l'avais pas fait, je l'aurais tué, tu comprends? Je n'en pouvais plus, moi. Samuel repense à ça, et il regarde sa mère qui se débat avec trois gamelles pleines de boue. Il a envie de lui gueuler qu'il comprend pourquoi son père est parti. Que c'est à cause d'elle, que tout est à cause d'elle. Qu'il est parti par sa faute à elle, et que maintenant c'est lui qui va partir, et ce sera aussi de sa faute à elle. Sibyl frotte ses mains pleines de griffures et ses bras tachés de boue. Samuel pense qu'il la déteste, qu'il ne veut pas lui ressembler. Il a honte, tellement honte. Il éprouve du dégoût et une sorte de pitié dont il a honte aussi. Sa mère, sa pauvre mère. Il voudrait qu'elle soit morte. Il voudrait pouvoir regretter sa mère et garder à l'esprit une simple image d'elle, lorsqu'il était enfant. Un souvenir qui lui tiendrait lieu de mère. Ce serait magnifique, sans aspérité. Une image morte mais chaude, loin de ce qu'il voit de sa mère aujourd'hui. Oui, parfois, il préférerait que sa mère soit morte. Elle sait bien comment il la regarde et comment, sans doute, il a raison de la voir. Elle retrouve ce regard que Benoît peut avoir sur elle et qu'il avait eu la première fois, lorsqu'il était venu la voir à l'hôpital, en Corse, à Ajaccio. Quand elle lui avait demandé comment on l'avait retrouvée et qu'il lui avait répondu qu'elle était une miraculée, ajoutant en se voulant drôle, « Il n'y a de la chance que pour la mauvaise herbe. » La Corse, oui. Le GR. Elle avait complètement oublié comment elle s'était perdue, ce qui avait pu se passer. Elle s'était souvenue de la morsure du froid et de la faim, des sensations qui étaient entrées dans son corps et y revenaient parfois, comme un souvenir imprimé en elle, comme on peut faire l'expérience de la brûlure et par la suite redouter le feu devant une boîte d'allumettes. Mais comment elle avait fait pour se retrouver aussi démunie, seule dans une gorge, et avec cette blessure à la tête. Elle s'était perdue, elle était tombée, elle était restée évanouie pendant longtemps, elle ne savait plus rien. Elle avait raconté ça, et lui l'avait regardé avec ce regard que Samuel doit avoir aujourd'hui, l'air attentif, professoral, vaguement sévère, avec pourtant, quelque part au coin des lèvres, ou peut-être perceptible dans une ride près de l'œil, autour de ses fameuses pattes d'oie qui lui donnaient du charme, c'est vrai, quelque chose d'indéfinissable, de mystérieux, volatile et furtif, mais qui circulait dans l'expression du visage. Une sorte de compréhension attendrie et amusée, qui semblait dire qu'on serait bien incapable, au fond, d'en vouloir à cette grande fille maladroite et naïve, qui présume tant de ses forces et se met en danger toute seule. Mais à l'époque, on était en 1998,